Vous êtes sur RTL.
Tous les écrans de contrôle, c'est là que tout se passe. C'est vraiment le centre névralgique du bateau au niveau du contrôle.
Loïc Briand est le directeur général de la partie maritime de Grenseil. C'est lui qui a conçu ce voilier cargo qui a coûté 9 millions d'euros. Pour comparatif, hein, bien moins cher qu'un bateau de course qui avoisine les 20 millions d'euros.
Il y a tout ce que j'aime bien sur un bateau. Un mélange entre les bateaux de course au large, côté marine marchande. On va aller visiter la cale maintenant.
Effectivement, les cales, donc le cœur de ce voilier cargo.
Bon, faut se faufiler dans les petites allées. Faut pas être trop grand, faut pas être trop gros. Des cales comme ça, il y en a combien du coup ?
Des comme ça, il y en a 4.
C'est ici que les palettes seront entreposées.
Voilà, il y a 2 cales sur 2 niveaux. On charge et décharge avec le bateau. Et on va être capable de charger et décharger le bateau en 2 jours à peu près.
Donc là, faut se baisser, faut se faufiler.
Ouais, c'est pas haut partout.
Non.
Ce bateau, c'est le résultat de ma passion de la voile et de mon métier de marine marchande. On transporte moins, on transporte mieux. Il y a des produits dont on peut raisonnablement pas avoir en local. Ceux-là, on peut les déplacer à la voile en décarbonant vraiment.
Alors, on s'y voit, mais qu'est-ce qu'on y met dans ces cales ? Que transporte le Grenseil 2 ?
Alors, j'ai envie de vous dire tout simplement, on exporte le savoir-faire français.
Les fournisseurs de vin, du luxe, ça peut être un peu de mécanique, de l'industrie pharmaceutique.
Pour le retour, après New York, on descend sur les Antilles françaises, où on va charger de la masse de cacao pour approvisionner notre chocolaterie Grenseil et aussi du café, parce que Grenseil fait aussi du café. Ensuite, certainement, on embarquera des produits locaux du rhum pour ramener à Saint-Malo.
Et ça, combien de fois par an ?
Et bah, il est prévu qu'il y ait 6 rotations par an.
Alors, en attendant, pour la première, Saint-Malo-New York en 2 semaines, le Grenseil 2 arrivera aux États-Unis aux alentours du 1er avril. C'est plus rapide qu'un cargo, la logistique est plus simple et surtout ça pollue moins. Bref, une révolution dans le transport maritime de marchandises.
Que des avantages. En plus, transporter du chocolat, du rhum, ouais, du café, c'est plutôt sympathique.
C'est un fameux demain. Alors, il n'est pas fin comme un oiseau du tout.
Merci beaucoup, Mathieu Lopinot.
Bonne soirée.
RTL Inside. Jusqu'à 19h, on refait nos régions dans RTL Bonsoir.
Vincent Parisot, Isabelle Choquet.
Ça, c'est le moment qu'on adore. C'est votre carrière à la fois de curiosité et de gourmandise. On va commencer par la curiosité près de chez vous, Isabelle.
Ah oui, cette initiative originale, le piano de Frédéric, une expérience conçue sur mesure pour les seniors du centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Alors pendant 3 mois, le pianiste Frédéric Isoletta a échangé avec une dizaine de personnes âgées et il leur a permis de chanter leurs souvenirs, de retrouver les mélodies qu'ils aiment. Bonsoir Manon Meyer.
Bonsoir.
Vous avez pu, vous, assister à la dernière séance, c'était aujourd'hui.
Oui, et ici la dernière ressemble un peu à un quiz musical avec le pianiste Frédéric Isoletta devant une dizaine de résidents. Et forcément, quand il se met à jouer les tubes de l'époque, eh bien ça revient vite, tout le monde connaît les paroles.
La bohème, ça voulait dire Charles Amour.
Voilà, c'est à peu près ça qu'il s'est passé ces 3 derniers mois pendant les séances du pianiste à l'EHPAD, un projet du Grand Théâtre de Provence. L'idée, plus que travailler la mémoire, c'était en fait surtout de discuter avec les résidents de leurs histoires autour des chansons. Vous savez, parfois, quand vous entendez les 3 premières notes d'une musique et puis ça fait tout de suite ressurgir un souvenir, eh bien c'est la même chose pour tout le monde, y compris Michel, 94 ans, quand il entend l'affiche rouge de Léo Ferré.
J'ai entendu quand j'étais militaire, un soir de garde, il y a très longtemps. Et ça m'a scotché cette musique, je me suis dit, oh, cette chanson va me servir de repère tout le monde, mon existence. Et au fur et à mesure que les années sont passées, j'adorais faire des petites pauses pour écouter cette chanson à l'intérieur de moi-même. C'est quelque chose qui me disait beaucoup de choses. Cet hymne à l'amour des autres.
Voilà, alors forcément, l'entendre jouer en live dans son EHPAD, ça a été un moment fort.
Et puis Manon, ici tout le monde vous a dit que ça a été surtout l'occasion d'apprendre à mieux se connaître.
Oui, en tout cas, c'est ce qui a marqué le pianiste Frédéric Isoletta.
Ça fait plaisir parce qu'il y a un vrai échange. Ce qu'on n'a pas, ou très peu, quand on va faire un concert de piano ou d'autres choses. Hein. Et au fur et à mesure, c'est comme si on se connaissait. C'est-à-dire, moi je venais ici avec plaisir, pas du tout en me disant... Bah, je vais là-bas, il faut que je joue ça. C'était vraiment sympa, l'heure passait vite, très très vite. Et on était heureux de se retrouver. Et ça, ils se parlaient pas autant avant, ils se sont racontés leur vie par cette musique.
Voilà, donc des échanges autour de Léo Ferré, Aznavour, mais aussi Johnny Hallyday.
Ah, Johnny aussi.
Et Johnny aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les résidents de l'EHPAD ?
Eh bien, bilan très positif pour tout le monde ici. Hein. D'abord pour Laetitia, 88 ans, c'est une manière de s'évader de son quotidien à l'EHPAD.
J'en ai besoin d'être avec compagnie, j'ai besoin de m'amuser, comme on dit. Je suis la plus heureuse quand j'entends chanter. Je suis pas malheureuse, même pas. Parce que quand ils m'ont opéré, j'ai oublié tout quitter, mon appartement, tout ce qu'il y avait. Et j'ai tout perdu. Ça me manque.
Quand vous chantez, vous vous oubliez un peu ça?
Oh oui. Aujourd'hui, j'ai oublié tout. Là. En chantant, je suis la plus heureuse. Je pense à rien d'autre.
Et puis, je vous propose d'écouter les réactions des résidents à la toute dernière séance de Frédéric.
Et vous êtes formidable.
Ah
hein,
oui,
pour ça,
ah, oui. La musique,
on vous remercie aussi.
Vous avez l'art de résumer nos pensées.
Merci à monsieur le pianiste.
Ah, bien sûr. On va l'enfermer à double coup.
On va le kidnapper comme on l'a su le faire il y a quelques mois.
En plus aussi, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'on est, on est des tempéraments très différents.
Oui.
Et ça, je découvre beaucoup de choses.
Voilà, donc une expérience que le personnel de l'EHPAD et les résidents voudraient renouveler. Mais ici, les animateurs planchent déjà sur un autre projet, des Olympiades inter-EHPAD, ici à Aix-en-Provence.
Ah bah c'est bien aussi.
Après la musique.
Eh c'est bien aussi, oui.
Bon, c'était formidable, le piano à l'EHPAD. Merci beaucoup, Manon Meyer.
On va continuer à refaire nos régions dans un instant avec notre info régionale pour briller ce soir au dîner. On sera à Limoges, on va parler chaussures, grandes chaussures.
Ah bon ?
Et puis il y aura la recette du jour, asperges à la flamande.
A tout de suite.
On refait nos régions dans RTL Bonsoir.
Vincent Parisot, Isabelle Vélo.
L'info pour briller dans On refait nos régions.
Et le vendredi, l'info pour briller régionale. Direction ce soir, Limoges avec vous Hermine.
Et oui, on va en parler de Limoges ce week-end car s'y déroule une étrange conférence sur les ovnis. Mais Limoges, c'est aussi la plus belle gare de France, ses porcelaines et des chaussures de stars.
Et pas n'importe lesquelles, celles du basketteur Victor Wembanyama.
Et oui, la star montante de la NBA a un petit bout du Limousin à ses pieds puisqu'une de ses paires de chaussures a été estampillée Weston, une entreprise 100% limougeaude. Alors, on ne parle pas là de basket, hein, mais de chaussures en cuir, des Richelieu de couleur noire, créées sur mesure par 20 salariés qui ont planché dessus pendant 2 mois. Il faut dire que fabriquer les chaussures de Victor Wembanyama, ce n'est pas évident. Hein,
le basket. Combien ?
Eh bien, il fait du 57. Il mesure 2,25 m. Et les machines ne sont pas capables de fabriquer de telles pointures. Alors, pour la petite anecdote, pour arriver à temps pour la cérémonie de la draft, l'entreprise a dû envoyer le modèle sans essayage avant. On imagine le petit coup de chaud au moment de déballer les chaussures. Heureusement, tout était parfait. Au total, Victor Wembanyama a commandé une quinzaine de paires made in Limoges. Alors, la prochaine fois que vous voyez le basketteur, regardez ses pieds. Il y a sûrement un peu de Limousin dessus.
Ah, il a une quinzaine de Winston. Mmh,
quand même, bah, il peut se permettre.
C'est la classe, c'est ça les stars. Merci beaucoup.
RTL Bonsoir, la spécialité du vendredi.
Vous avez vu l'heure ? On va bientôt préparer le dîner.
Ah ben oui, il fait faim.
Et on va peut-être avoir des idées. On peut même déjà envisager de passer à table pour les plus affamés. Donc on se rend en cuisine parce que c'est la spécialité du vendredi.
Et ce soir, un plat de saison, une recette traditionnelle du nord de la France et de Belgique avec le chef Christophe Cherperel du restaurant Le Quai à Lambersart près de Lille. Bonsoir Franck Hanson.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Vous nous avez préparé des asperges à la flamande.
Oui, alors c'est un plat qui annonce le printemps, un produit de saison local. Vous choisissez des asperges blanches, les premières arrivent en ce moment. Hein. On en trouve dans les Flandres, par exemple, sur le littoral, avec des œufs mollets ici, une vinaigrette à base de pesto d'ail des ours, un peu de salade de mâche. Alors c'est une recette revisitée par le chef Christophe Cherperel, qui a œuvré dans des grandes tables parisiennes, même dans les cuisines de l'Élysée sous Jacques Chirac, avant de s'installer ici, sur les bords de la Deule, près de Lille. Alors on vous emmène en cuisine.
Donc là, je vais mettre mes asperges à cuire. L'idéal, c'est de les botteler, c'est-à-dire d'en faire une botte en gardant au centre les plus fines et à l'extérieur les plus grosses, les cuire dans une cheminée. Donc une cheminée, c'est une boîte de conserve qui est percée des deux côtés. Ça cuit à peu près 5-6 minutes une asperge blanche. À côté de ça, on va préparer la vinaigrette, donc, avec les œufs mollets, ciboulette et échalotes. On a gardé les extrémités des asperges pour donner un peu de mâche aussi, un peu de croquant à cette recette, dans cette vinaigrette. Et on va lier tout ça avec cet œuf mollet. Une
cuillère à chaque fois.
Une cuillère de chaque à chaque fois pour lier pour 2-3 assiettes. Et on attend que les cuissons des asperges soient faites.
Alors Franck, maintenant que les asperges sont cuites, quelle est la suite ?
Eh bien donc après 5-6 minutes dans l'eau bouillante, ces asperges sont donc dorées au beurre, à la poêle.
Les asperges sont déjà salées vu qu'on a bien salé notre eau de cuisson.
Là, vos asperges, vous les faites dorées ?
Mais dorées blond, quoi, tout simplement. Et on va venir les lier justement avec ce pesto.
C'est de l'ail des ours et de l'huile d'olive, c'est ça en fait ?
L'ail des ours, de l'huile d'olive, un peu de parmesan, un peu de fromage, on met, et un peu de pignon de pain et de la poudre d'amande. Et là, on peut sentir, on sent,
là, on sent
une petite odeur d'ail. Donc là, les asperges, pour moi, elles sont finies. On va venir les débarrasser et les mettre sur un papier absorbant.
On écaille l'œuf mollet, c'est ça ?
On écaille l'œuf mollet et après, on va venir l'écraser. Vous verrez, il est encore bien, bien jaune et bien liquide.
Dans la glace, c'est ça ?
Pour stopper la cuisson, une fois qu'on le sort de l'eau, une fois qu'on est à nos 6 minutes de cuisson, on le stoppe dans l'eau. On va venir l'écraser simplement. Donc en fait, on va avoir une texture un peu onctueuse. Et on va venir rajouter cette texture à notre vinaigrette qu'on avait préparée. Voilà, maintenant, on va venir disposer dans notre assiette nos asperges. On vient saucer simplement avec cette vinaigrette. Voilà.
C'est beau, hein.
C'est une recette qui va relativement vite, une recette de saison. C'est à la portée de tout le monde.
Enfin, il y a du boulot quand même.
Il y a du boulot.
Ouais, il y a du boulot, mais c'est finalement à la portée de tout le monde, hein, Isabelle. Vous pouvez vous y mettre. C'est beau, c'est bon. Ouais, c'est pas très compliqué en soi.
Je vais laisser faire le chef, hein, je crois. Vous avez goûté, Franck ? Ça a l'air très
oui,
bon, mais.
Oui, oui, tout à fait. Reste maintenant à déguster. Sincèrement, c'est vraiment excellent. C'est sain et c'est frais.
Donc là, on a goûté le produit. C'est vraiment c'est super bon, quoi.
Ouais, je pense, ouais. On sent bien le produit, on sent bien les textures de chaque chose. L'œuf mollet, juste le jaune permet le liant, mais on peut le mettre en œuf plus simplement. C'est ma vision, ma façon de voir la cuisine aujourd'hui. Remettre un peu les produits en avant, quoi.
Voilà, en tout cas, on s'est régalé. C'est un bon plat pour le soir ou en entrée.
Merci beaucoup, Franck Hanson, avec ces asperges qui arrivent en ce moment sur les marchés. Nous aussi, on va se régaler. Recette de Christophe Cherperel, c'est le restaurant Le Quai à Lambersart, dans le Nord.
Retrouvez toutes les chroniques dont Refait nos régions sur l'appli RTL.
Valérie Quintin, du soleil au sud et de la douceur partout demain.
Oui, c'est vrai que dès le réveil, les températures seront relativement clémentes. 8 degrés à Brest demain matin comme à Aurillac, 10 degrés à Montpellier, mais avec un ciel toujours bien chargé demain sur les deux tiers nord du pays. Alors, il y aura un petit peu moins de grains orageux, plutôt dans l'est en matinée, plutôt à l'ouest l'après-midi. Entre les deux, on peut espérer des éclaircies pas trop vilaines, hein, entre les Hauts-de-France et les régions centrales. Et puis sinon, le vrai beau soleil, c'est près de la Méditerranée, ainsi que dans le sud-ouest et dans les Alpes que nous le trouverons à tout moment de la journée. Côté Mercure, donc dans l'après-midi, 13 degrés attendus à Reims, 15 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Montauban et 21 degrés à Nîmes.
Merci Valérie, 19h01. Et 19h01, c'est l'heure du 360. Pour tout savoir de l'info, avec vous, Aude Vernoussiou, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Cette frayeur à Chenov, près de Dijon, un élève de collège a menacé sa proviseure avec un couteau. Il a été rapidement interpellé cet après-midi. Plana Radenovic, bonsoir.
Bonsoir.
Selon vos informations, l'élève portait sur lui une lettre mentionnant les attentats de 2015.
Oui, c'est ce qu'indique le procureur de Dijon, Olivier Caracoche, à RTL. À ce stade, cependant, aucune qualification terroriste n'est retenue. Alors voilà ce qu'on sait, il est aux alentours de 15h cet après-midi, lorsque l'élève âgé de 15 ans en classe de 3e menace la principale de l'établissement. Établissement dont il avait été exclu quelques jours plus tôt pour un motif disciplinaire classique, précise le procureur. De sources policières, l'interpellation de cet adolescent connu de la justice pour des délits mineurs a été plutôt houleuse. L'alarme a été déclenchée, l'élève a commencé par courir couteau à la main en direction des policiers avant de se rendre. Il est alors interpellé et placé en garde à vue. Il n'y a eu aucun blessé. Les élèves de ce collège classé en zone d'éducation prioritaire ont été confinés le temps de l'intervention des forces de l'ordre.
Information signée Plana Radenovic. Après la mort d'un jeune homme mercredi soir à Aubervilliers, percuté alors qu'il était à scooter par un véhicule de police, l'avocat de la famille annonce déposer plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La police évoque de son côté une collision à la suite d'un refus d'obtempérer. La France, l'Allemagne et la Pologne déterminées à ne jamais laisser gagner la Russie, selon Emmanuel Macron, unité affichée par le chef de l'État à Berlin au lendemain de sa prise de parole. Il était aux côtés du Premier ministre polonais et du chancelier allemand Olaf Scholz qui annonce une coalition des alliés de l'Ukraine sur les armes de longue portée. Notez qu'une frappe sur Odessa a fait aujourd'hui 20 morts. C'est l'une des plus meurtrières.
En Russie, des bureaux de vote dégradés ou attaqués en pleine élection présidentielle.
Certains ont tenté de mettre le feu feu à une urne dans un autre bureau à Kherson, région du sud de l'Ukraine occupée par les Russes. Une bombe a explosé sans faire de victimes. L'épouse d'Alexeï Navalny appelle les Russes à contester l'élection en votant pour n'importe qui, sauf Poutine, dimanche à midi. Yelena répondra à cet appel. Elle s'est rendue aujourd'hui sur la tombe de l'opposant.
En deux словах не скажешь. Тяжело.
Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens en étant ici. Je suis submergée par tant d'émotions. C'est un héros que le pouvoir a tué, a empoisonné. Mais je n'ai pas peur de venir ici. Pourquoi continuer d'avoir peur ? Je ne voulais pas voter aujourd'hui. Je n'irai pas demain, mais je le ferai dimanche à midi, comme ce que l'épouse d'Alexeï Navalny a appelé à faire, en se rendant au bureau de vote pour protester. Je n'ai pas encore décidé pour quel candidat. J'écrirai peut-être le nom de Navalny sur le bulletin de vote. En Russie, il y a des hommes qui peuvent être présidents, mais ils sont tous prisonniers.
Un témoignage recueilli par Nicolas Burnand pour RTL. Vladimir Poutine a voté pour lui en ligne. Le maître du Kremlin assuré d'être réélu face à l'absence d'opposition. En bref, le navire espagnol transportant 200 tonnes d'aide humanitaire est arrivé à Gaza. Les vivres commencent à être déchargés ce soir dans l'enclave palestinienne menacée de famine après 5 mois de siège.
Après la crise agricole qui n'a pas été que française, qui a gagné toute l'Europe, eh bien la Commission européenne propose d'assouplir certaines règles de la PAC, la politique agricole commune.
Et en particulier, Vincent, des règles environnementales. Moins de contrôle et surtout un changement radical sur la jachère. Virginie Garin, colère des associations environnementales.
Alors effectivement, la jachère, pour toucher leur prime, les agriculteurs devaient laisser reposer au moins 4% de leur terre. C'est un principe vieux comme l'agriculture qui consiste à ne rien cultiver sur une parcelle. Pendant 6 mois, on laisse pousser les fleurs. C'est bon pour les abeilles, pour les oiseaux. La terre s'enrichit. Mais face à la colère des paysans qui disent qu'on les empêche de produire, plus d'obligations, les agriculteurs auront le choix. Jachère ou pas, ils toucheront dans les deux cas des primes. La Commission propose aussi de supprimer les contrôles et les pénalités liées aux normes environnementales pour toutes les petites exploitations de moins de 10 hectares. Donc les ONG environnementales sont furieuses. Ce n'est pas ce qui va sauver les paysans, disent-elles. Préserver la nature et les terres, c'est préserver leur avenir. Ces propositions doivent encore être examinées par les États au mois d'avril.
Explication signée Virginie Garin.
Ils ont voulu dénoncer la vétusté de leur lycée dans une vidéo TikTok. 4 professeurs de Sevran sont convoqués pour se faire remonter les bretelles par leur proviseur.
Ils parlent ouvertement dans cette vidéo du plafond qui s'effondre, du chauffage dysfonctionnel, du manque de tables et de chaises. Mélissa Pandore-Margoulis, l'une des enseignantes de la vidéo, a pris cette convocation comme une démarche d'intimidation.
On m'a dit que ma participation à une vidéo avec des élèves sans l'autorisation de la chef d'établissement posait question sur le plan du respect du devoir de réserve qui s'impose aux fonctionnaires. J'ai rappelé ce que j'ai dit exactement dans la vidéo qui est je suis prof de français en Seine-Saint-Denis, lorsque j'étais enceinte, je n'ai pas été remplacée. Ça c'est vrai et le devoir de réserve il limite l'expression d'opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. J'ai le droit en fait de m'exprimer. Pour moi cette convocation c'est une tentative d'intimidation. Je suis donc extrêmement déçus. On se mobilise parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide matérielle, on a besoin d'aide en termes de ressources humaines, on a besoin de recrutement. On est dans le département le plus pauvre de France métropolitaine et on nous laisse dépourvus. Et la seule réponse qu'on nous fait, c'est vous n'aviez pas le droit de parler.
Un témoignage recueilli par Nerissa Emani. Les sports, 3 clubs de foot français en quart de finale de compétition internationale. C'est une première depuis 20 ans. Les affiches sont connues. En Ligue Europe, l'OM affrontera Benfica en quart de finale. En Ligue Europe Conférence, Lille va défier Aston Villa. Tandis qu'en Ligue des Champions, le PSG se prépare pour ce qui est presque devenu un classique. Un quart face au Barça, ce sera le 10 avril prochain.
Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Et si on parlait du cycle ? Les nouvelles sont plutôt agréables, avec beaucoup de douceur ce week-end et un soleil toujours plus généreux au sud.
Oui, c'est vrai que tout le week-end, ce sont les régions les plus au sud qui vont profiter d'un soleil très très généreux du matin au soir. Ça va aller du sud-ouest aux Alpes et à la Méditerranée. Dès demain, ce sera le cas aussi dimanche et tout le week-end. Les deux tiers nord du territoire auront un ciel beaucoup plus chargé. Des pluies de plus en plus faibles cependant. Quelques éclaircies qui seront d'ailleurs plus variantes pour la journée de dimanche par rapport à demain. Tout cela avec des températures qui restent très très douces. 14 degrés demain après-midi à Cherbourg et Nancy, 15 à Orléans, Paris, Strasbourg, 18 à Limoges, 20 degrés à Marseille, 22 degrés à Biarritz, températures qui vont même s'offrir le luxe de grimper dimanche après-midi puisqu'on pourrait atteindre les 25 degrés dans le sud-ouest.
Ça sent sérieusement le printemps. Merci beaucoup Valérie Quintin.
RTL. Bonsoir. Vincent Parisot, Isabelle Choquet.
Et pour conclure la séquence et la tradition du vendredi après le 360, on désigne le winner ou le loser du jour. Et ce soir ?
Ce soir, c'est un winner, Vincent. Il est argentin, mais il a beaucoup de succès en France.
Allons bon.
C'est le tango, Hermine.
Les acrobaties toujours plus folles fait rêver les Français. Pas moins de 300 associations françaises lui sont consacrées, une quarantaine de festivals chaque année. Il faut croire qu'on est un peu comme Guy Marchand ici en France, un peu tango tango.
Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau.
Pour vous rendre compte du phénomène, hein, chaque semaine, 60 balles de tango sont organisées rien qu'à Paris. Une foule de danseurs amateurs s'y pressent, comme dans ce reportage de nos confrères de M6.
On a une centaine de personnes au minimum. On monte jusqu'à 200-250 personnes lorsqu'on fait venir des groupes pour jouer en live.
Pourtant, c'est franchement pas simple, hein, d'apprendre le tango. La danse est millimétrée à la seconde près. Et puis visiblement, il n'y a pas de manuel. Hein. On ne peut compter que sur nos talents innés.
Tout est basé sur le principe de la marche et de l'invitation à partager un pas. Donc par l'enlacement des bras, on a une sensation de ce que l'autre traverse et fait avec son corps ou ne fait pas.
Tout est dans le ressenti.
Tout est dans le ressenti, absolument.
Alors, je ne sais pas si vous êtes de bons danseurs, mais avec ces consignes, moi je ne tiens pas plus de 30 secondes, je pense. Après, si autant de Français s'y mettent, c'est que ça ne doit pas être sorcier. Cher auditeur, même si vous n'y connaissez rien...
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Allez, au printemps, vous pourrez peut-être enchaîner les acrobaties sous le soleil. Hein.
En tout cas, Hermine, la passion des Français pour le tango, on peut le dire, elle ne date pas d'hier.
Non, clairement, écoutez déjà cet extrait d'un journal télévisé, c'était en 1978.
Et puis pour terminer ce journal, je vous propose un pas en avant et deux pas de côté. Il s'agit du tango, l'une des danses qui revient en force dans les petits bals du samedi soir.
Les Français déjà amoureux du tango, et je les comprends, c'est sûr que ça... Et eh bien, c'est beaucoup plus sexy que ça.
Ah bah oui. Allez, les filles, on se bouge, allez.
Ça, c'est sûr que c'est plus sexy que ça aussi.
C'est plus sexy que la chenille, alors, hein, c'est sûr.
Tango, moi, je pense comme ça, gomina, chaussures vernies. Mais ça, c'est la vieille image de tango a su se renouveler, Hermine. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un vrai winner ce soir.
Ah bah oui, tango, il a été décrié comme une danse assez sexiste, car c'était l'homme et seulement l'homme qui en avait l'initiative. Mais tout ça, c'est terminé et désormais, on encourage les femmes à prendre le devant. Allez,
voilà.
Et puis, bon, le tango a été remis au goût du jour dans des émissions à la télévision, sur des musiques peu orthodoxes d'ailleurs. Hein. Écoutez, c'était en 2022 dans un célèbre concours de danse à la télévision et ça décoiffe. Hein.
Sur un tango, Billy Crawford et Fovoto.
Tango,
ah ouais, c'est du tango. On peut danser du tango sur les musiques de 2024.
Ça rend trop bien.
Mais on va pas se mentir, hein, c'est quand même beaucoup moins sensuel. Je pense qu'en studio, et pour beaucoup, le tango, bah, ce sera toujours ça.
Mais vous avez dit le mot sensuel, certains disent même érotique. Je ne sais pas, vous...
On va vous laisser.
Lâchez vos casques, allons-y.
Merci beaucoup en tout cas, Hermine. Merci Isabelle. C'est ainsi que sur quelques notes de tango. RTL, bonsoir, s'éclipse. Mais vous l'avez entendu, Anaïs Bouton et ses amis journalistes européens s'installent maintenant en studio parce qu'il y a Air France à refaire. Et là, il y a du boulot. Belle soirée.
RTL. Ils refont la France sur RTL.
Buenas dias.
Namaste.
Avec Anaïs Bouton.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France, c'est tous les vendredis soirs et vous le savez, c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère, un peu notre Erasmus à nous, comme dit Vincent Parisot chez RTL, avec ce soir les amis.
Hello, good evening, Philippe Toll, British journalist at France 24.
Et Paola Martínez Infante, periodista chilena, buenas tardes.
Hallo und guten Abend, ich bin deutsche Journalistin Birgit Holzer.
Bonsoir Birgit. Et alors pour vous, normalement on a Zorro, mais là on n'a pas Zorro, donc vous allez le faire tout seul, le roi dans vos Eldorados.